Alors, j'aimerais que nous allions dans Deux Chroniques au chapitre 20. Je vais lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 37. Josaphat régna sur Juda. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Shilshi. Il marcha dans la voie de son père Asa et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point et le peuple n'avait point encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses pères. Le reste des actions de Josaphat, les premières et les dernières, cela est écrit dans les mémoires de Jéhu, fils de Hanani, lesquelles sont insérées dans le livre des rois d'Israël. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Et ils firent les navires à Etchon-Guéber. Alors Éliézer, fils de Dodava de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit, « Parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. » Et les navires furent brisés et ils ne purent aller à Tarsis. Le livre des chroniques, deux chroniques, est divisé en deux parties. Il y a une première partie qui correspond au règne du roi Salomon, qui sont les 9 premiers chapitres, et les chapitres suivants jusqu'à la fin concernent les rois de Juda. On trouve ce même récit un peu plus succinct dans 1 roi 22, et on a à peu près les mêmes informations, mais en un peu plus court. Josaphat a laissé une bonne image des rois. C'était un des meilleurs rois que Juda ait connu. Il aimait Dieu et il incitait le peuple à faire de même. N'est-ce pas? Il a créé des écoles, on le lit un petit peu avant. Hein, c'était ses premières écoles bibliques, alors... Non, je plaisante, mais c'était des endroits où l'on enseignait la loi de l'Éternel. Verset 7 du chapitre 17, la troisième année de son règne, il chargea ses chefs, Benaï, Abdia, Zacharie et tout, d'aller enseigner dans les villes de Juda. Donc ils enseignaient le livre de la loi de l'Éternel et ils enseignaient ça parmi le peuple. De sorte à ce que le peuple connaisse les profondeurs de Dieu. Et il avait aussi demandé aux juges d'être justes dans leur jugement. Donc c'était un roi qui aimait Dieu, qui a pris des dispositions politiques et sociales en faveur du peuple et qui était vraiment apprécié du peuple et de Dieu lui-même. Les royaumes autour avait peur de Josaphat et il savait, il voyait que Dieu était très présent à ses côtés. Et donc, il est dit que les Philistins et les Arabes qui étaient à côté venaient lui apporter de nombreux présents. Et tout ça, c'était évidemment pour préserver la paix parce qu'il le craignait beaucoup. Alors, je vais m'arrêter sur un mot. C'est un mot qui m'a incité à parler ce matin sur ce thème. Au chapitre donc 20 et au verset 33. Seulement. Verset 32. Il marcha dans la voie de son père Asa et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement. Les hauts lieux ne disparurent point. Et le peuple n'avait point encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses pères. Et dans un roi, on apprend qu'en fait, il continuait à sacrifier aux idoles et à brûler de l'encens. Dans la vie, on pourrait dire que Josaphat a tout fait parfaitement. Mais de temps en temps, il apparaissait comme une faille chez cet homme. Et la première, on la lit au chapitre 18. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? Josaphat répondit, moi, comme toi et mon peuple, comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Josaphat était lié à Akab parce qu'il avait épousé une de ses filles. Donc il faisait partie de la même famille. Si Josaphat était connu pour être le meilleur roi, Akab était connu pour être le pire des rois. Akab étant roi d'Israël. Cependant, Josaphat a clairement accepté la proposition d'Akab que de se battre contre le roi de Syrie. Plus loin, on apprend que ce combat sera fatal pour Akab, qui mourra d'une flèche perdue, qui ira se loger à un endroit où sa cuirasse avait un point de faiblesse, et Akab mourra de ce fait-là. À la fin de ce combat, donc qui est la fin du chapitre 18, on lit la chose suivante au début du chapitre 19. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui et dit au roi Josaphat, « Doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel ?» À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Lorsqu'on lit la suite, on s'aperçoit que Josaphat, qui vivait en paix de façon générale, commence à s'inquiéter parce qu'autour de lui, ça s'agite. Et il sait qu'on veut l'attaquer. Est-ce que c'est une conséquence de cette irritation de l'Éternel? Ça n'est pas dit. Mais il se trouve que le pays est en danger et que Josaphat est attaqué. Il s'ensuit de sa part une démarche vis-à-vis du Seigneur où il prie, il intercède avec un vibrant appel à l'aide et au secours de Dieu. Dieu lui répondra de façon merveilleuse en lui disant « Ne t'en occupe pas, c'est moi qui combattrai pour toi. La seule chose que vous aurez à faire, c'est de chanter et de louer Dieu. » Et ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils ont chanté et loué Dieu, la victoire est intervenue. Et l'Éternel a combattu à la place de Josaphat. Seulement. Seulement, pourquoi aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Seulement, pourquoi les hauts lieux n'ont-ils pas été détruits? Seulement, pourquoi n'apprends-tu pas des erreurs que tu as commises? Josaphat s'était associé avec Achab. Dieu l'avait reproché cela. Il s'est à nouveau associé avec Akazia, qui était un roi impie, pour faire du commerce. Il n'avait pas appris de ses erreurs. Josaphat savait que ce genre d'association n'était pas possible. Josaphat savait parce que la loi le disait. Si l'on lit en Deutéronome, au chapitre 22, on savait que par nature, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas mélanger. Verset 9, Deutéronome. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils de laine et de lin réunis ensemble. Et il y a d'autres d'indication de cela dans le Lévitique également. Il y a par nature des choses qu'on ne peut pas associer. Et celui qui aime Dieu ne peut pas approuver celui qui n'aime pas Dieu en s'associant avec lui. Labourer avec un attelage disparate était interdit. Mais non seulement c'est interdit, mais c'est aussi logique que ça ne marche pas. Parce que, est-ce que vous avez déjà vu un joug pour deux animaux? Essayez d'atteler un bœuf avec un âne. C'est impossible. Parce que le joug est à une certaine hauteur, il sera à la hauteur de celui du bœuf, qui est beaucoup plus grand. Et l'âne ne pourra pas tirer avec. Le tempérament n'est pas le même. Mettez un âne et un bœuf ensemble, vous avez deux tempéraments différents. Au passage, vous savez que les bons, les vrais chrétiens sont des ânes, n'est-ce pas? Oui. Faites votre étude, vous verrez. On ne peut pas associer un âne et un bœuf. L'apôtre Paul dit la même chose dans 2 Corinthiens, au chapitre 6. Et je lis de versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? N'est-ce pas tout ça doit nous faire réfléchir sur les alliances que nous formons. Tout ça doit nous faire réfléchir sur la façon dont nous, croyants, conduisons nos vies. On l'a vu pendant la formation biblique sur l'histoire de l'Église. Le grand problème de l'Église catholique, ça a été une période, où les moments qu'on appelle le césaropapisme, c'est-à-dire ces moments où l'Église se mariait avec la politique. Ça, c'était pour lui permettre de contrôler la vie des gens dans tous les domaines d'activité, aussi bien dans la vie quotidienne que dans la vie religieuse. Ça a causé la perte de cette Église. Certains sont encore toujours en train de se poser la question si c'était bien ou pas. La Bible nous dit que cette association-là n'est pas possible. On ne peut pas mélanger le bœuf et l'âne. Par expérience, je peux vous dire que les œuvres sociales mises en œuvre par les chrétiens et qui bénéficient de financements publics sont toutes vouées à l'échec. Toutes. Les seuls qui ont tenu jusqu'à présent, c'est l'armée du salut. Mais aujourd'hui, c'est la débandade complète. Il n'y a aucune de ces œuvres, à partir du moment où elles bénéficient d'aide publique, qui peut tenir. Soit l'œuvre est fondée sur la foi dans la capacité de Dieu à pourvoir, et alors ça tient. Soit la compromission qui est faite va créer la perte de l'œuvre. Alex pourra vous confirmer mes propos. C'est pas que les gens sont de mauvaise volonté, c'est pas ça. C'est juste que dans l'œuvre de Dieu, ce mélange-là n'est pas possible et n'est pas reconnu et n'est pas accepté par Dieu. Et donc Dieu se retire de l'œuvre. Il se retire. On pourrait dire la même chose sur les divers œcuménismes qui existent. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, vous avez plein de raisons de se mettre ensemble avec des gens sur la base d'une sorte de dénominateur commun, acceptable et humaniste. Le problème, c'est que si l'Esprit de Dieu n'est pas à l'origine de l'œuvre, il ne sera pas présent dans l'œuvre, même si tout paraît bien, même si tout paraît beau, et même si tout le monde prie et chante, même si tout le monde dit Alléluia en cœur. Si l'origine n'est pas celle de l'Esprit de Dieu, ça disparaît. Et on verra comment tout à l'heure. Les mariages. Les mariages. Si vous voulez la catastrophe, mariez-vous. Et là, je m'adresse aux enfants. Mariez-vous avec un non-chrétien ou une non-chrétienne. Si vous voulez que ça foire complètement, eh bien faites-la. Et vous êtes sûr que ça ne marchera pas. Parce qu'il y a deux esprits qui sont en opposition. Même s'il est gentil, s'il est bien et tout, même si elle est formidable, qu'elle a plein de bonnes intentions, et que oui, j'irai avec toi à l'église de temps en temps. Ça ne marche pas. Je ne dis pas ça avec plaisir. C'est simplement des constats. Il y a des associations qui sont impossibles. Parce que dans les associations, il faut un même esprit. Une même foi. Un même amour. C'est parce que, dans un couple, c'est parce que l'objectif commun, c'est Dieu. C'est ça qui fait que ça tient. Si mon objectif, c'est mon partenaire, mais ça ne peut pas tenir. Mon partenaire n'est pas infaillible. Il est rempli de défauts. N'est-ce pas? J'attendais une réponse comme ça. Quand je me regarde dans la glace, je m'aperçois que moi, je suis rempli de défauts, n'est-ce pas? Seulement, il y avait un autre problème. Josaphat avait négligé de détruire les hauts lieux. Je ne dis pas qu'il n'avait pas commencé à le faire, mais la parole dit qu'il n'avait pas détruit les hauts lieux. Les hauts lieux ne disparurent point et le peuple n'avait point encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses pères. Josaphat avait été négligent sur ce point-là. Josaphat était sans doute quelqu'un de tolérant. C'était sans doute quelqu'un qui avait des idées sur l'éducation, sur la pédagogie, il était tolérant dans la façon de voir les choses. Alors on voit tout ce qu'il met en œuvre, les écoles, tout ça, ça montre une certaine sensibilité à l'éducation. Et le problème, c'est que cette tolérance consistait en une autre faille chez lui. Une faiblesse qui le rendait vulnérable pour lui-même et pour son peuple. Malgré sa grande dévotion à Dieu. Dans Marc 10, il y a une histoire qui nous parle de ça. C'est l'histoire du jeune homme riche. Il y avait là un homme qui cherchait le chemin de la vie éternelle. Et il le cherchait avec force, jusqu'à rencontrer Jésus. Et donc, il avait trouvé la bonne personne, celui qui pouvait lui dire quoi faire. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, dit « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il te manque une chose. Il y a une faille. Dans toute ta recherche, il y a une faille, et je te l'ai dit. Tu m'as rencontré, tu as rencontré la bonne personne. Tu m'as posé une question, je te donne la bonne réponse. Il y a une faille dans ton action. Vends tout ce que tu as. Mais ça, c'était pas possible. Parce que cet homme pouvait supporter de faire des choses pour Dieu, pour honorer Dieu. Il pouvait respecter les commandements. Tout cela, il pouvait le faire. Mais ce qu'il ne pouvait pas accepter, c'était de perdre son identité. De perdre ce qu'il était face à la société dans laquelle il était. Il avait envie qu'on dise, regardez, il est riche, mais n'empêche qu'il adore Dieu. C'était ça qu'il voulait entendre. Il voulait entendre, ah oui, tu as de grands biens, et en plus, tu adores Dieu. Et Jésus voulait entendre de sa bouche, je n'ai plus rien, et j'adore Dieu. C'était le besoin de reconnaissance. Et les hauts lieux, c'est ça. Les hauts lieux, ce sont les endroits de reconnaissance de la foi personnelle que l'on adresse à Dieu. C'est là où on voit les choses qu'on fait. C'est pour ça qu'on les gardait. Parce que là, on existait en tant que celui qui sacrifie ou qui fait sacrifier. L'apôtre Paul n'était pas tombé dans ce piège. On le lit dans 2 Corinthiens. Pardon, 1 Corinthiens 4. Et puissiez, verset 9, « Puissiez-vous régner, en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. » Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayures du monde. Le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Si quelqu'un avait des richesses, si quelqu'un avait des capacités, c'était bien l'apôtre Paul. Et vous voyez que là, il a tout laissé de côté. Il a laissé son statut d'érudit de côté. Il a, peut-être ses biens, il les a laissés de côté, pour simplement accepter d'être une balayure, d'être quelqu'un qui n'avait plus d'identité, en tout cas pas celle devant les hommes, quelqu'un qui n'avait plus le respect des hommes, bien souvent même pas le respect des frères et des sœurs à qui il s'adressait. Une balayure. Une balayure, c'est une poussière qu'on ramasse avec un balai. Les chrétiens sont des ânes et sont des balayures. Est-ce qu'on est prêt, de cette façon-là, à concevoir la vie chrétienne? Il faut bien réfléchir, n'est-ce pas, avant de dire oui. Les hauts lieux sont des endroits de sacrifice. À titre individuel, les hauts lieux sont des endroits où, dans le cœur, on a gardé des souvenirs. Des souvenirs de choses auxquelles, dans le passé, on a sacrifié. Lorsque le péché vient dans la vie, c'est au travers d'une suggestion que fait Satan, n'est-ce pas? Cette suggestion devient un désir. Ce désir devient une intention et un acte. Je ne suis pas en train de vous inventer quelque chose, c'est le procédé du péché originel. C'est comme ça que Satan a opéré avec Ève, et c'est comme ça que chaque péché fait sur terre intervient dans la vie des personnes. Lorsque l'intention arrive, le péché est accompli. C'est pas lorsque l'acte arrive que le péché est accompli, c'est lorsque l'intention arrive que le péché est accompli. N'est-ce pas? C'est pas pour rien que Jésus a dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà péché avec elle. Ça concerne les à l'inverse aussi, n'est-ce pas? Lorsqu'on convoite et que l'intention naît dans notre esprit, alors il y a péché, au même titre que lorsque l'acte est accompli. Et le haut lieu intervient là. parce que cette intention reste comme un souvenir agréable qu'on a peut-être refoulé. Mais un jour ou l'autre, on revient dans ce haut lieu et on sacrifie à nouveau dans les pensées. Et à nouveau, le péché intervient. Et c'est ce qui fait que le péché est chaque fois de plus en plus facile à accomplir. C'est pour ça que on ne tombe pas dans le péché. On glisse dans le péché. C'est faux lorsqu'on dit « je suis tombé dans le péché ». C'est comme si je n'avais pas fait exprès, que j'ai trébuché, je suis tombé dedans. Ça, ce sont des fausses excuses qu'on se trouve. La réalité, c'est qu'on s'est laissé glisser dans le péché. Et on l'a accompli intentionnellement et en toute connaissance de cause. Et alors le lien vient. Parce que là, Satan vous a attrapé. Il vous a ferré et il ne vous lâchera plus. Et tant que ces hauts lieux ne sont pas éliminés de notre vie, lorsque les choses n'ont pas été balayées, eh bien ces choses reviennent, ces souvenirs reviennent et on bâtit, on sacrifie dessus. Il faut détruire les hauts lieux afin de ne pas être complètement pollués et incapables même de s'adresser à Dieu. Troisième point, le dernier, Josaphat n'avait pas appris des expériences. De son expérience malheureuse du passé. Il n'avait pas appris de sa mésaventure avec Achab. Et il n'avait pas pris vraiment au sérieux la réprobation de l'Éternel par le prophète Jéhu. Et il se remet en route pour une association avec un roi impie. À nouveau. Et il est dit que alors, sans doute qu'il y avait beaucoup d'argent à la clé, n'est-ce pas? Donc, il s'est dit, là, il y a une bonne affaire à faire et on va faire des bateaux ensemble. Alors, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Achazias, dont la conduite était impie, ça veut dire infidèle. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis ou à Ophir, ça dépend des endroits. Et ils firent les navires. En fait, c'est la fin du verset 37 qui m'intéresse. Parce que tu t'es associé avec Achazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et si vous regardez le grec, détruit, c'est fait une brèche. Et quand on fait une brèche dans un bateau, ça coule. Eh bien, c'est tout le travail de Josaphat qui a été sali par cette action. C'est le nom de l'Éternel qui a été sali par cette action. Notre vie peut être quasi irréprochable, comme c'était le cas de ce roi. Mais Dieu ne tolérera pas, sur la base de cette quasi-irréprochabilité, ne tolérera pas un seul péché. Il n'y a pas une seule fois dans ta vie et dans ma vie que je pourrais dire celui-là, ça passe à l'as. Dans l'ensemble, ça va. Ça marche pas comme ça. L'apôtre Paul nous avertit dans 1 Corinthiens 3, verset 11, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, c'est-à-dire le fondement. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Dieu ne viendra pas en s'excusant de faire une brèche dans notre œuvre. Il ne viendra pas gentiment nous dire « Excuse-moi, mais là, voilà, ça ne va pas, je vais... » Dieu est intervenu immédiatement. Il n'a pas averti Josaphat. Il lui a brisé son travail. Tout est passé par le fond. Rien n'est resté. Les hommes ont pu travailler toute leur vie, ont pu créer des œuvres, ont pu être des pasteurs, ont pu être des anciens, ont pu être des évangélistes. Si, dans leur vie, quelque chose de semblable et d'indigne intervient, Dieu viendra de la même façon pour faire une brèche dans leur œuvre qui sera perdue à tout jamais et qui ne comptera pas au dernier jour. Il sera sauvé. Mais comme au travers du feu, il ne s'agit pas là d'une excuse. Il s'agit d'un avertissement sérieux de la part de l'apôtre Paul pour ceux à qui il s'adressait et il s'adresse à nous. Frères et sœurs, dans nos vies, quelle que soit l'œuvre, quelle que soit l'association, quelles que soient les choses que nous faisons, Dieu ne s'excusera pas de venir anéantir les choses que nous avons mises en œuvre si nous le faisons sur la base du péché. On va attendre, on va prier. Seigneur notre Dieu, je veux prendre au sérieux ta parole et les avertissements qu'elle contient. Seigneur, je prie afin que pour moi déjà et pour mes frères et sœurs, tous les hauts lieux puissent être détruits. Je prie, Seigneur, pour que la galerie de souvenirs qui va avec ces hauts lieux puisse être détruite. Seigneur, je prie pour que chacun de mes frères et sœurs ici présents, qui était à la recherche de paix, Seigneur, puisse, en se tournant vers toi, recevoir la réponse. Que dois-je faire? Comme le jeune homme riche a reçu la réponse de Jésus. Seigneur, je prie afin que tu nous gardes, Seigneur, et que contrairement au peuple qui n'était pas suffisamment affermi, Seigneur, tu nous affermisses les uns et les autres. Seigneur, glorifie ton nom, dans le précieux nom de Jésus. Amen.